Yep. Ça va commencer. J'ai pas le retour encore. Merde, elles sont. Bonjour à tous, comment vous allez bien? Au moins 5 sur 5, merci Samuel. Bonjour, bonjour. Ça se réveille doucement dans la chatroom. Salut Olek. Bonjour à tous. Allez, on ne traîne pas. J'espère que vous allez bien. Moi, un petit peu fatigué, mais ça devrait aller. Je suis très mal cadré. Ouais. J'ai connu mieux. J'ai connu pire. Oula, ça arrive en masse là dans la chatroom. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Stéphane, Jérém Ki, Notmousse, Didier et Soriane. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. On a vraiment besoin de vous en ce moment. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Mais si vous hésitiez à contribuer, c'est le moment. On va faire notre expression désuète du jour en attendant que la chatroom se remplisse. On dirait que tu es torse nu. Tu as beaucoup d'imagination. aujourd'hui, est-ce qu'on l'a vu ne pas payer de mine? Il faut vraiment que je retrouve mon stylo pour cocher. Être au pied du mur, ça on l'a vu. Ne pas payer de mine, je crois qu'on l'a pas vu. La mine, synonyme d'apparence, semble venir du breton mine, sans e, bec, museau. Payé de était au. C'est combien ça? C'est 7e siècle. Payé de était au 7e siècle faire preuve de telle ou telle qualité. Une personne ou un établissement qui ne paye pas de mine a donc un aspect peu engageant. Cependant, avec le temps, on sous-entend qu'il vaut mieux qu'il ne le croirait à première vue. Ah! Avant, ne pas payer de mine, ça voulait dire c'était franchement moche, quoi. Hein? Ta maison ne paye pas de mine. Bouh, qu'elle est laide! Et en fait, avec le temps, c'est. Elle est peut-être mieux qu'elle n'en a l'air. OV, bâton, bâton! Oui, j'ai. Comme beaucoup de gens, j'ai un petit peu de mal avec les chiffres romains. Voilà, hein. Oui, rappel, merci Samuel de le dire. Dans le programme de cette semaine, un peu agité avec des jours fériés, il va y avoir un Texcope jeudi, parce qu'en fait, pour moi, jeudi ne sera pas férié. Je préfère prendre mon vendredi, en fait. Donc, il n'y aura pas de Texcope vendredi, mais par contre, il y aura un Texcope jeudi, hein. Donc, voilà, notez-le dans vos petites tablettes. Nowtech Bourse acheter des actions à AMD. C'est qui disait ça sur Twitter? Je veux des actions à AMD. Je ne sais plus quel. C'était pas Linus qui disait ça. Et justement, on va en parler d'AMD. Ça tombe bien. On sera donc absent, dodo. Eh oui. Mais ça permettra à certains qui ne peuvent pas nous écouter en semaine, peut-être de suivre un live en direct le jeudi matin, s'ils ont un peu de courage pour se lever. Et moi aussi, il va me falloir du courage. Ouais, c'est Linus qui a fait une vidéo acheter des actions AMD. Allez, de quoi on va parler ce matin? On va découvrir le sommaire ensemble. Nous allons parler non pas des iPhones de 2019, parce que ça, c'est déjà passé, quoi. Nous allons parler des iPhones 2020. Quelles sont les prochaines rumeurs pour pas la prochaine génération, mais la génération encore d'après d'iPhone. Et oui, on a de l'avance. On parlera effectivement d'AMD qui dévoile sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen en 7 nanomètres, qui est moitié moins cher que la nouvelle gamme d'Intel, Intel qui va faire d'ailleurs sa conférence aujourd'hui, donc probable que demain, peut-être que Marion vous parlera demain des processeurs d'Intel, c'est elle qui choisit son édito, hein, je vais pas le faire à sa place non plus. On a une petite histoire Huawei ce matin, bien croustillante, des colis égarés, FedEx qui aurait détourné des colis vers les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'est la petite histoire conspirationniste Huawei du jour. Un petit peu croustillante. On parlera de YouTube Gaming, l'appli qui va fermer ses portes le 30, donc après-demain. De toute façon, on vous en foutait, personne ne l'utilisait. C'est un peu pour ça que YouTube la ferme. Ferme également chez YouTube, hein, chez Google. C'est le mois des fermetures. Ils ferment Jump, si vous vous souvenez. C'était leur fameux service cloud de montage vidéo pour la réalité virtuelle. Ça nous dit pas mal de choses d'ailleurs sur le marché de la réalité virtuelle. Et en dernier article, nous aurons non, les Chinois n'ont pas de sonnerie de téléphone humiliante quand ils sont endettés. On débunkera, on expliquera un petit peu ce buzz que vous avez certainement vu dans les news et nous trierons le vrai du faux dans cette histoire, puisque c'est un peu notre fonction hein, sur TechScope. Non seulement nous faisons une revue de presse, mais nous apportons un esprit critique et ou critiquable. Voilà en tout cas pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Hein, ça c'est fait. Il y a de fortes chances que le cours d'AMD monte avec leur conf de mi-juin. Il y a de fortes chances que quand beaucoup de monde dit qu'un cours monte, il ne monte pas. Mon expérience de boursicotage. Ne jamais aller là où on vous dit d'aller. Enfin, quand il y a trop de monde qui y va. C'est quoi cette histoire de sonnerie? Eh bien, Edmondson, il faudra attendre la fin de l'émission pour le savoir. Voilà. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer effectivement avec les iPhones de 2020. Alors, pas ceux de 2019, les nouvelles de 2019. On les connaît, de toute façon, maintenant, les iPhones, je vois même pas pourquoi on se casse le cul à regarder les keynotes, on sait tout avant. Le prochain iPhone, il va pas beaucoup changer de l'iPhone de cette année, si ce n'est qu'il aura la recharge, merde, comment on appelle ça? Enfin, vous pourrez recharger vos iPods, vos iPods. Non, pas, oh là là, je suis fatigué. Bref, vos écouteurs et votre Apple Watch directement sur l'iPhone. On parle aussi de l'arrivée de la troisième caméra. Apple va s'y risquer aussi. Ça sera peut-être assez intéressant, hein, voir ce que Apple arrive à faire avec une troisième longueur focale. La recharge inversée, oui. Merci. Il y a la keynote Redmi en ce moment. Bah, je peux pas être au four et au moulin, hein. Mais là, on va plutôt parler de ce qui attendrait l'iPhone pour 2020 et une rumeur notamment assez persistante sur ce que Apple préparait pour 2020. Ce n'est pas le pliage de son smartphone, ça serait trop tôt, mais ça serait le retour du Touch ID. Alors moi, je sais, et voilà, j'assume complètement, j'avais dit, Apple ne reviendra pas sur le Touch ID. Maintenant qu'ils ont le Face ID, c'est pas du genre à faire comme on trouve sur certains Android, du multi-possibilité. C'est pas dans l'ADN d'Apple. Bah, cochon qui s'en dédie, il est fort possible que le Touch ID revienne sur les iPhones, mais d'une manière un petit peu particulière, c'est que Apple aurait, c'est tout ça, hein, c'est des rumeurs, aurait développé un système de Touch ID qui marche sur l'ensemble de l'écran. Donc vous pourrez mettre votre doigt où vous voulez, à ne pas sortir du contexte, hein. Vous pourrez l'unlocker là, l'unlocker là, l'unlocker là, 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 à l'envers, à l'endroit, avec votre joue, on arrête là. Donc, Touch ID qui revient, pourquoi pas? Moi, je sais que... Alors, par exemple, Marion, là, elle serait ravie du retour du Touch ID. Elle ne supporte pas le Face ID. Le Face ID ne marche pas avec Marion. Il n'est pas Marion compatible. Hein, sachez-le chez Apple. Embauchez Marion pour tester votre prochaine version de Face ID. Ça ne marche pas avec Marion. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ça marche quand même un petit peu. Mais bon, moi, par exemple, ça marche super bien. J'ai aucun problème avec Face ID. J'adore le Face ID sur mon iPhone. Je l'adore un petit peu moins sur mon iPad, parce que le problème de l'iPad, il marche très bien, le Face ID sur l'iPad, mais souvent, la caméra de façade est bloquée. Comme un iPad, je le tiens comme ça, ben j'ai tendance à bloquer la caméra, en fait, à boucher la caméra. Et donc, je suis souvent obligé de m'y prendre deux fois avec le Face ID sur l'iPad. Donc, à la limite, Apple, si tu veux me faire plaisir, Touch ID sur l'iPhone, je m'en fous un peu. Par contre, remettre le Touch ID sur l'iPad, pas con, pas con. Je prends. Vive le Face ID développé par ST Micro à Grenoble. Ben écoute, bravo. C'est noté les capteurs d'empreintes digitales. Bah, oui, ça marche avec les doigts de pied, bien sûr. Et c'est très pratique parce que si on te coupe les mains, tu as toujours tes pieds. J'aime bien ton esprit pratique, Edmondson. Ouais, je sais qu'il y a des gens, le Face ID, c'est pas la panacée. Moi, ça marche, mais à un point, c'est magique, en fait. Il arrive même dans le noir où j'ai un demi-visage, j'ai la tête dans le cul, machin, et pff, hop, il est déloqué. Je trouve ça magique, le Face ID, personnellement. Eh ben écoute, Half-Life, je te laisse responsable de ta phrase et tu la diras à Marion directement. Hein, Marion, un visage atypique. Je n'oserais jamais lui dire ça. L'iPhone, oui, mais tu te rattrapes en disant l'iPhone est subjugué. Mais petit conseil, hein, d'amis, ne dis jamais à une femme qu'elle a un visage atypique. Ça va jamais être bien pris, mais jamais. Toi, je sais, hein, tu penses plutôt à un truc positif, mais non, c'est une phrase à éviter. Oui, moi, je suis Face ID certified. La reconnaissance faciale, c'est interdit en... Ah, attention, faut pas tout mélanger. C'est la reconnaissance faciale par les caméras de surveillance, pas le Face ID sur ton smartphone, où l'information reste sur ton smartphone. Expression désuète. Oh, la panacée, c'est pas désuet quand même, c'est du français, quoi. C'est pas la panacée. Non ? Je parle vraiment comme un vieux dico ? Oui, Face ID, la tête dans le cul, effectivement. La blague était facile, hein, Manuka. Mais c'est bien de la faire. Il faut quand même faire, même les jeux de mots évidents, il faut les faire. C'est important. La seule fois où Face ID n'a pas fonctionné avec moi, c'est quand j'ai fait un fond de l'œil. Il te reconnaissait plus. Ah ouais, c'est marrant. Moi aussi, je m'en suis fait un, là, où t'as les yeux... C'est horrible d'ailleurs comme impression quand ils te foutent les gouttes dans les yeux et après t'es là. Mais ma longueur focale, j'y comprends plus rien. Alors on va. Ok, je la note. La panacée, on expliquera ça un jour. Je suis le seul que ça dérange le Face ID avec un iPhone sur le bureau. Non, moi, je trouve le geste très naturel. T'as l'iPhone sur ton bureau et tu fais comme ça. Naturel, tranquille. Non, moi, en fait, c'est vrai que quand je le déloque sur le bureau... Mais moi, il arrive... Alors, je vous montre. Quand il est à peu près comme ça, dans cet angle-là, par rapport à mon visage, il arrive à me reconnaître. On va faire un essai. Eh bien, bien sûr, là, ça n'a pas marché. Alors, on va essayer à quel angle il me reconnaît. Je sais, je suis en train de perdre du temps. Ah ouais, il me reconnaît à cet angle-là. Bon, mauvaise démo. Là, il me reconnaît. Mais je l'ai entraîné un peu, hein. Face ID sur un fold de faux masque. Pah ! Aïe ! S'asseoir sur son iPhone pour le... Eh ! C'est peut-être pas si bête le Face ID. On met souvent son smartphone dans la poche arrière. Il y a peut-être quelque chose à faire. Olek, tu m'emmerdes avec tes chiffres romains. Allez, on continue. Également, dans ce qu'on attend pour 2020, pardon, ça serait une technologie... alors, le Touch ID serait 3D. Ça serait plus, en fait, un scan de notre empreinte digitale, mais carrément un modèle 3D de notre empreinte digitale, ce qui permettrait, mais je me demande comment ça va marcher, de déloquer sur l'ensemble de l'écran ou qu'on appuie avec le doigt. Également, ce qui serait prévu, c'est que l'appareil photo arrière de l'iPhone devrait être équipé d'un système de détection 3D amélioré pour la réalité virtuelle. Ça nous en dit pas tellement plus. La 5G également devrait arriver, hein, puisqu'elle est prévue en 2020 sur les iPhones. Bref, voilà. Ça, c'est Techscope. On n'a même pas encore fait les annonces de 2019. On est déjà dans les annonces de 2020. Le seul endroit où il peut encore y avoir des surprises, c'est dans le futur, puisque dans les keynotes, on saura tout. Elle est bientôt, d'ailleurs, la keynote, là. Ah oui, mais c'est la... Oui, il n'y aura pas d'iPhone annoncé. C'est lundi, non ? Mardi ou lundi, je ne sais plus. Je ferai peut-être un after keynote. On verra selon le planning. Jérôme est dans le turfu, tu m'étonnes. J'ai alors le titre de ma prochaine vidéo, que j'ai pas le droit de vous dire, mais qui devrait arriver dès qu'on sera mis d'accord avec quelqu'un. Alors il y a quelque chose du futur. J'ai hésité à mettre turfu. Après je me suis dit on va te dire ouais tu fais faux jeune machin et tout. Donc j'ai mis futur. J'ai pas mis turfu. Peut-être que je vais le regretter. On verra. Bon, je sens que c'est un matin où j'ai du mal à me concentrer. Donc on va rester focus, hein, et on va passer au prochain article. AMD dévoile sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen en 7 nanomètres qui serait moitié moins cher que celle d'Intel. Intel va faire normalement ses annonces aujourd'hui, mais AMD a fait ses annonces au Computex 2019. Ils ont dévoilé leur nouvelle génération donc de processeurs Ryzen. Cette année, il y aurait 5 nouveaux modèles qui ont été présentés. Ils s'appuient tous sur l'architecture Zen 2 avec une gravure en 7 nanomètres qui permettrait un gain d'instruction par cycle de 15% selon AMD. Hein. Reste à tester. Nous allons compter un par un les instructions par cycle. Hein, parce qu'on est comme ça. On note également la prise en charge de l'interface PCIe 4.0 qui arrive enfin avec la promesse d'un débit doublé. Ce que j'adore, c'est que je lis des trucs et vous avez l'impression que je comprends ce que je suis en train de dire et que je sais ce que c'est qu'une interface PCIe 4.0 avec la promesse d'un débit doublé. Bah oui, forcément. Et que enfin, ça arrive, quoi. On l'attendait quand même, ce débit doublé. Non mais oh. J'avoue que en processeur, je comprends pas grand-chose. Et ça va en plus s'empirer à fur et à mesure que je vais lire l'article. Hein. Ça va être très très long de compter. Enfin, ça va être rapide, mais long à compter. Ouais, je pense aussi. Le modèle le plus accessible, l'entrée de gamme de cette série, débutera à $199, $200, pas mal. C'est le Ryzen 5/3600. Il disposera de 6 cœurs et de 12 threads, une fréquence de base de 3,6 GHz, 4,2 GHz boost et un cache de 35 MB, et pas bits, MB ou mégaoctets. Hein, parce que certains se sont permis de me reprendre dans ma vidéo. Je sais maintenant, un octet, ça équivaut à des bytes, qui équivaut à 8 bits. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est comme ça que ça marche. T'es gentil là, avec tes 8 bits, tu prends les deux caisses de couilles. Hein. C'est une vieille blague. 6 cœurs, donc increvable. Parfait pour mon frigo. Je vois que vous êtes aussi fort que moi en processeur. Non, non, en plus, je fais mon bêta, mais je sais ce que c'est que le PCI Express. À l'époque où je m'intéressais aux cartes graphiques. Euh, les specs sont plutôt pas mal pour le prix. Oui, non, non, mais là, je me moque, mais en fait, c'est vachement bien. Et le haut de gamme, le fleuron de la gamme, celui que vous attendez tous, le Ryzen 9 3900X disposera, lui, de 12 cœurs, 24 threads, pour un TDP de 105 watts. Alors là, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est, le TDP de 105 watts. À mon avis, c'est un truc par rapport à la fréquence électrique, je ne sais pas quoi. Une fréquence de base de 3,8 GHz, un boost de 4,6 GHz, un cache de 70 mégaoctets. Pour la comparaison, le TD d'un Intel Core i9-9920X est de 165 watts. À mon avis, c'est par rapport à la consommation. Donc, il consomme moins qu'un Intel. Le Ryzen 9 devrait être encore plus efficace. Il sera proposé, alors là, accrochez-vous, parce que franchement, pour du haut de gamme, c'est pas mal, au prix de $500 contre $1189 pour le Core i9 de chez Intel 9920X. Donc, oui, c'est moitié prix. Le TDP, c'est la chauffe d'isupation. La chauffe d'isupation. Je crois que tu as inventé un mot, Guillaume. C'est bien, il faut, mais... Il consomme peu par rapport à... Oui, c'est ce que j'ai compris. Il est donné, bon, 500 euros, c'est quand même 500 euros, mais par rapport à un Intel, c'est pas mal. Ça devrait plaire quand même à bon nombre de joueurs qui veulent se faire des configs performantes sans devoir vendre leur jambe qui leur reste après l'achat du dernier iPhone. Donc ça va éviter des mutilations, hein. C'est ça qu'il faut se dire, ou des ventes d'organes. On a un TDP de 95 watts sur les i9-9900K, mais je ne sais pas ce que ça veut dire TDP. Ben manifestement, c'est la dissipation. Et c'est quel socket ? Les roses ? Non, c'est pas précisé la couleur de ces sockets. C'est pas précisé là dans l'article. Oh, t'en parleras avec CNET, hein. C'est un article de CNET, hein. Le BTP, le TBP, parce que le BTP c'est autre chose, c'est les watts. Non, ça a l'air d'être la dissipation en fait. Bref, des bonnes annonces, des bons Ryzen, ils seront disponibles à partir du 7 juillet, c'est-à-dire vraiment bientôt. Donc c'est plutôt cool, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit acheter des actions AMD, parce que manifestement, leur nouvelle collection est très performante. À voir ce que propose Intel, je crois que les annonces sont aujourd'hui. Le serpent à socket, c'est pas mal aussi. Non mais je sais ce que c'est quand même que les sockets. J'ai fait le débile, mais... Non, Patrick n'est pas là, mais tu sais, Patrick, à ces heures-ci, il n'existe pas. Hein. Patrick est un être éthéré avant 9h30 du matin. Vous l'avez vu, la seule fois où il a fait un Texcope en remplacement, c'est quelque chose que je lui redemanderai plus jamais. Et AMD va faire des annonces pour les serveurs mi-juin. Ouais, AMD, bien dans la course. Dissipation thermique processeur en français, le DTP, on nous précise. Merci Maurice. The Thermal Design Power, c'est la dissipation thermique. En gros, ça va surtout influer sur le refroidissement nécessaire. Merci Bruno pour toutes ces indications. Les annonces Intel, c'était tout à l'heure. Bon, bah, je les ai ratées, je dormais, hein. Ils ont présenté le nouveau Xeon et un laptop Alienware. Ils sont en PLS. Ah, d'accord. Ça a mal pour Intel. Ah, bah, c'est bien la concurrence pour le coup. Bah, en tout cas, ça permet d'avoir des processeurs performants moins chers. Moi, je suis content. Histoire Huawei du jour, pas un jour sans une histoire Huawei, et celle-ci s'annonce un petit peu croustillante, un petit peu plus légère que d'habitude. Huawei est furieux, je ne vais pas vous refaire toute l'affaire de Huawei, mais cette fois, ils sont furieux pour quelque chose. Donc, ils accusent FedEx d'avoir détourné deux paquets qui étaient destinés en interne. En fait, c'était des paquets qui étaient envoyés du Vietnam à un autre bureau Huawei en Asie. Et ces deux paquets n'ont pas été égarés par FedEx, mais ont transité par les États-Unis. Dans le climat actuel, c'était une belle connerie. Alors FedEx dit, mais non, on s'est juste gouré, quoi. Voilà, il y a une erreur, comme ça nous arrive tout le temps, quoi. C'est juste une erreur. Ça a transité aux États-Unis par erreur. Quand même, dans le climat actuel, deux paquets qui transitent par les États-Unis. Alors, Huawei dit, ces paquets ne contenaient pas de notre technologie, mais contenaient des documents commerciaux, et c'est grave, parce que si c'est tombé dans les mains des Américains, ils ont espionné ce qu'il y avait dans nos paquets FedEx. Bref, c'est en train de prendre quand même des tours un petit peu grand guignol, ces histoires. Bizarre. Bon, après, quand on connaît le taux d'erreur de ces FedEx et autres UPS, ça peut arriver. Après, c'est quand même malencontreux dans le climat habituel. Je serais FedEx. Je brieferais mes gars qui vont chercher les paquets chez Huawei en disant, les gars, je mets les meilleurs sur l'affaire. Hein, je mets nos meilleurs livreurs, les mecs qui se gourrent jamais, le mec qui a un tableau irréprochable, pas l'espèce de beatnik qui fume des joints entre deux paquets et qui balance, oh tiens, ça on va envoyer aux États-Unis, ça on va envoyer là. Non, non, là c'est les bons livreurs, là. Le bon livreur, le mec, il regarde l'adresse, il fait, ça doit aller là. Voilà, ça c'est le bon livreur FedEx. Je vous fais bien, hein, Oui, un paquet, je suis d'accord Robin, un paquet, on pourrait se dire, oui, mais deux, c'est un peu chelou, oui, mais peut-être que les deux paquets étaient ensemble, et c'était le même livreur fumeur de joint, étudiant qui en a rien à branler, on le connaît, on le sait. Ça arrive à tout le monde de mal router, ouvrir, scanner le contenu, refermer, renvoyer, voyez, hein. À mon avis, ils n'auront plus cherché des paquets tout de suite. Il y a le mauvais livreur FedEx et le bon livreur FedEx. Exactement. J'ai appris un truc aujourd'hui, il y a des bons livreurs FedEx. Il y en a un. Je n'ai pas dit qu'il y avait des. Il y a un. C'est Super FedEx. Le mec, son pli arrive toujours. Donc c'est lui qu'il faut mettre sur l'affaire. C'est trop touchy, FedEx. Faut pas déconner, là. C'est des histoires de géopolitique. Ça va se terminer. Huawei va se mettre à lancer des vieux P30 qui m'ont briqué, qui n'ont plus Android, sur des Américains en vacances. Il va y avoir des violences. En fait, c'est comme une grosse tablette... Ah oui, j'ai pas choisi d'en parler, mais effectivement, c'est qui a sorti un ordinateur avec deux écrans, c'est Razer ou c'est Asus, je sais plus. Doc Gynéco livreur. Ouais, il va lancer des téléphones sous Tizen. Me parlez pas de FedEx TNT. Oula, Samuel, il a une dent. Ouais, c'est Asus qui a sorti ça. Ouais. J'attends un paquet aujourd'hui. Il est peut-être livré en Chine, bah oui. Bon, après, attendez. On va pas faire les vierges effarouchées, genre les méchants américains. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, on parlait d'une histoire d'une start-up américaine qui racontait ce qui était arrivé quand même au paquet qu'ils avaient envoyé à Huawei. Ils avaient innové, c'était, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, justement pour du verre, pour concurrencer le Gorilla's Glass, etc. Et ils avaient envoyé des échantillons à Huawei pour consultation et ils ont reçu quand même leur paquet en retour. Le verre avait été rayé dans tous les sens. Les mecs avaient découpé un bout pour garder un échantillon. Bon, hein, Huawei, hein, c'est pas parce qu'en ce moment t'es un peu la causette du truc qu'il faut nous la faire à l'envers, hein. On sait de quoi vous êtes capable aussi. Le paquet est arrivé à pied par la Chine. Eh oui, la vieille merde, comment ça s'appelle? C'est une contrepétrie, ouais. Là, c'était pas la faute du livreur. Oui. Mon colis venait de Montsouris pour Clichy, il a transité par l'Allemagne. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que parfois, il vaut mieux pas regarder par où passent tes paquets. Hein. Bref, c'était l'affaire Huawei du jour. Huawei, toujours une histoire qui se déroule. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il faut que j'arrête de dire Huawei, il faut dire Huawei. Il y a un Huawei. Mais bon, j'ai pris le tic de dire Huawei. Hein, puis zut, je suis pas chinois. Le bilan carbone, ouais, il est peut-être pas génial, effectivement, pour des plis qui font ces tours-là. Dans le même genre, mon colis Peak Design, rigole pas avec ça, hein. Mon travel pack, je l'ai reçu après tout le monde. Donc, me parlez pas des postes anglaises, hein. La poste royale, je vous ai dans le nez, hein. Attention. C'est à cause d'eux, ils m'ont perdu deux paquets Peak Design. Salaud. Il y a un mec qui est en train de se balader en Angleterre avec ce qui devait être mon premier sac Peak Design. Salaud. Huawei. Non, Naïm, il faut pas écrire en majuscule, sinon tu te prends un coup de clé à molette. The Queen is not amused. Ah, t'es carrément un colis DHL qui s'est barré à Dakar avant de revenir à Londres puis en Alsace. Pas mal, pas mal. Samuel, j'ai attendu 5 semaines pour un colis de Lyon. Je suis à Paris. Ouais, non, mais on a tous des histoires de colis. C'est là où on se dit le e-commerce, ça a du bon, mais parfois ça fait vraiment chier, quoi. Et oui, on a moins le nombre de fois que des trucs ont été soit volés, soit égarés, et ça prend du coup, faut envoyer des papiers, des déclarations sur l'honneur et tout ça. C'est vraiment relou. Ça va faire 2 mois que t'attends un colis. Non, non, mais vraiment, on a tous des histoires comme ça. Allez, on continue. On va parler de YouTube Gaming. Vous vous souvenez de l'appli YouTube Gaming, hein? Elle avait une petite icône. Regardez, vous peut-être vous rappelez quelque chose. Regardez en haut, là. La petite icône gaming, c'était ça. C'était la tentative de Google... enfin de YouTube, de faire une appli qui était dédiée au contenu autour du jeu vidéo dans YouTube. Eh bien, ça a été un petit peu un fail. Alors, oui et non, parce que vous vous souvenez d'ailleurs, à une époque, je vous conseillais de la télécharger parce que on avait un accès. C'est eux par exemple qui ont eu les cloches de notification. Enfin, sur cette appli, on avait les cloches de notification avant que ça soit sur l'appli principale YouTube. Pour ça qu'à une époque, je vous avais dit de télécharger cette application. Certains d'entre vous, dont moi, on l'a utilisé. En fait, c'était pas un YouTube parallèle, c'était juste une entrée différente de YouTube, focalisée sur le jeu vidéo et le live. C'était un petit peu la réponse de Google à l'avènement Twitch. Ça a foiré, hein, on va le dire. En tout cas, sur le live de jeux vidéo, YouTube est aujourd'hui vraiment en retrait par rapport à ce qui se fait sur Twitch. Ils ne se sont pas donné tant de mal que ça, je trouve, YouTube sur le live. Pour être franc, moi qui utilise le système live tous les matins de YouTube, je trouve que ça évolue peu. Bon, ça a le mérite de marcher, ça n'a pas toujours été le cas. Ça marche, mais il y a peu d'évolution. Par rapport à ce qu'on peut faire sur Twitch avec un live, ils ont quand même du retard, quoi. Non, mais c'est clair, ils ont une vraie avance technologique chez Twitch. Bref, en tout cas, Google donc a décidé d'arrêter l'appli YouTube Gaming, et ça s'arrêtera dans 2 jours. Donc si vous l'utilisez encore, bah, il est temps de se dire au revoir, hein, de s'embrasser et de regarder l'appli partir vers l'échafaud et de disparaître dans la fosse commune des applis que tout le monde a oublié et dont personne n'en a rien à foutre. Là où moi je trouve ça dommage, alors en fait, il y a un certain nombre d'innovations qui avaient amené YouTube Gaming quand même, qui se sont retrouvées dans l'appli principale. J'espère juste que vers le 30 hein, du mois, ou en tout cas dans pas longtemps, j'espère que YouTube a des annonces, parce que ça bouge très lentement du côté YouTube. Il y a des choses qu'on attend. Moi je sais par exemple qu'il y a des choses qui sont en bêta, vous le savez pas et moi j'ai pas le droit de vous le dire. Il y a des choses plutôt sympas, mais les annonces au grand public sont vraiment faites au compte-gouttes et on n'a pas l'impression que ça évolue, quoi. Oui, ce qui marchait va se retrouver sur YouTube normal. Ouais, mais je trouve pas qu'il y ait énormément d'évolution. Je pense pas que YouTube s'en fout parce qu'ils ont le monopole. Je pense surtout que YouTube, tu touches... Enfin, c'est un gros paquebot fait avec des cure-dents. Voilà ce qu'est YouTube aujourd'hui. Si tu bouges un truc, c'est la structure d'ensemble du paquebot qui risque d'être affectée. Non, c'est un gros paquebot à bouger. La moindre modif, même dans l'application, peut avoir des répercussions énormes. Je pense qu'actuellement, les équipes de YouTube, ils flippent du moindre changement. Ils ont très peur. Ils ont très peur de toucher le moindre fil. Et c'est pour ça que ça évolue lentement. Et de la concurrence, ils en ont. Ils ont essayé de réagir. Hein, à tout. Il faut pas croire que YouTube est dans une tour d'ivoire. Hein. Ils ont pas un monopole. Regarde, sur le live, ils ont perdu la compète. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas continuer la compète, mais contre Twitch, c'est clair qu'ils ont perdu la première manche. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, YouTube se prend tout le backlash qui devrait concerner toutes les vidéos sur Internet, même Twitch. Mais aujourd'hui, c'est YouTube qui se prend. YouTube est vraiment dans le viseur de pas mal de monde. Et s'ils font la moindre modif et que ça déclenche des trucs négatifs, ils ont eu pas mal quand même de shitstorm hein, déjà cette année. Dailymotion, j'avoue qu'on n'en parle plus beaucoup. Je sais pas trop où en est Dailymotion, honnêtement. Et je crois que Marion ne sait plus trop non plus. Après, Dailymotion continue à marcher. Hein. Pas en France, mais dans d'autres pays, ça marche bien. Quel shitstorm ? Bah attends, YouTube, ils s'en sont pris plein la gueule hein, quand même. Enfin, ils s'en sont pris avec raison, hein, sur les contenus pour enfants touchy, les YouTube, la YouTubeuse qui a pété les plombs, qui allait avec un flingue au headquarter. Il y a eu quand même pas mal de scandales autour de YouTube cette année. Hein. Techniquement, les lives YouTube tiennent la route, mais ils évoluent pas assez. Il n'y a pas assez d'outils pour nous, streamers. Par rapport à Twitch, c'est quand même pas mal en retard, quoi. C'est pas mal en retard. Allez, On continue, en tout cas, c'est la fin de l'appli YouTube Gaming. Attention, hein, tout, après tout le gaming qu'il y avait dans cette appli est toujours sur YouTube. Hein, c'était juste une porte d'entrée de YouTube, le YouTube Gaming. C'était l'année dernière, la YouTubeuse qui est partie avec un... qui s'est donné la mort, d'ailleurs... qui est rentré dans le headquarter, on l'avait traité dans TechScope, qui est rentré dans le headquarter de YouTube et qui s'est mis à tirer. Il y a eu, je crois qu'il y a eu des blessés, mais il n'y avait pas eu de mort à part elle, en fait. Oui, effectivement, Google ferme pas mal de choses, puisque c'est mon deuxième article pour Google. Google a décidé également de fermer Jump, son service cloud de montage vidéo pour la réalité virtuelle. Alors, vous en souvenez peut-être pas, mais quand vous allez voir cette caméra, ça va vous rappeler quelque chose. C'était en 2015 et c'était l'avènement de la VR. On y croyait à fond. Tout le monde allait acheter des casques virtuels et regarder ses films à 360 et se faire des torticolis pour le plaisir de Google. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Enfin, oui et non. Pourquoi Google ferme ce service ? Ils expliquent d'abord parce que c'est l'émergence des nouvelles caméras. Aujourd'hui, les caméras 360, c'est pas, je sais plus, 17 caméras d'action alignées les unes à côté des autres dans un grid, mais on a, voilà, c'est généralement deux objectifs 180 qui sont collés dos à dos. Et stitché en temps réel qui donne en fait le contenu 360. C'est beaucoup plus petit, c'est miniaturisé. Donc ils expliquent pour ça que le format qu'ils avaient créé, le VR 180, il ne sert plus à rien. Le stitching, c'est cette fameuse technologie qui permet d'attacher des images entre elles pour produire une image VR. Autrefois, ça se faisait en post-production, donc c'est là où Google Jump avait tout son sens. C'était le logiciel. Vous rameniez vos images de vos 17 caméras et il les stitchait entre elles pour pouvoir faire derrière récupérer un film VR. Maintenant, ça se fait en temps réel dans les caméras de VR qui existent. Google Jump était aussi un service de caméra physique, puisqu'il y avait deux modèles de caméras qui avaient été produits. Il y avait l'une avec GoPro qui était baptisée GoPro Odyssey en 2015 et une autre avec Yi en... Je sais pas si on dit Yi ou Chi. C'est Chi, Y-I. Ah, je sais plus. Yi en 2017, la Yi Halo, qui était assez coûteuse, mais la GoPro, c'était encore pire, parce que c'était $17,000 pour avoir 17 caméras comme ça, les unes à côté des autres. Pas d'outils pour les... Pas assez d'outils pour les modos non plus. On voudrait pouvoir torturer avant le ban. Oleg, c'est pas bien de le dire. Le faire, c'est autre chose. Mais c'est pas bien de le dire. Dans le titre du live, c'est marqué jumeau. Oh, merde. Pardon. Ok, j'ai fait une faute de frappe dans mon titre. C'était Google Jump et pas Google jumeau. J'ai fait une... Ben, ça arrive. Oh, eh, je suis pas infaillible, hein, je suis pas une machine. Merci de me l'avoir fait remarquer. Merci Samuel de corriger effectivement le titre du live. Bref, ça c'est ce que nous dit Google, hein, c'est que parce que la technologie des caméras évolue, mais en même temps quand on y regarde de plus près, Google est en retrait quand même par rapport au projet lié à la réalité virtuelle. Sa fameuse plateforme qu'ils avaient lancée avec plein de jolis pictos, machin, Daydream, c'est suspendu. Le projet de caméra VR haut de gamme a été annulé. Son studio de création interne, Google Spotlight Stories, a été fermé. Bref, la VR, je dis pas que c'est mort, mais c'est certainement pas l'avènement qu'on nous avait annoncé en 2015, hein. On en est quand même très très loin. J'ai réussi à déclencher le Google Home. Yes! C'est mon but. Bah, le 360, je crois qu'on vous avait bien dit les choses avec Tristan, qu'on en avait parlé au salon de la photo. Le gros problème de la vidéo 360, c'est que c'est des vidéos ou des photos extrêmement difficiles à rendre intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'une photo ou une vidéo ou un film, c'est un point de vue. On vous montre quelque chose. Quand on vous donne une image à 360, on vous dit « bah regarde où tu veux ». Donc du coup, pour raconter une histoire ou véhiculer une émotion, c'est beaucoup plus une émotion, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la VR est idéale pour vous immerger. Donc, pour donner une ambiance de vacances ou oh, regarde comme c'est grand le Grand Canyon grâce à la VR, ça, ça marche très bien. Ou mets-toi dans la peau de quelque chose, ça, ça marche très bien. Mais finalement, c'est une utilisation assez limitée. C'est une consultation qui est assez limitée. À part pour regarder autour de soi sur un plan, la 360 n'a pas énormément d'intérêt. J'avais montré effectivement quand j'avais testé une caméra 360, d'ailleurs la marque a disparu depuis, c'était un des problèmes. J'avais pris une photo de la croisette à Cannes et on voyait tout, même les poubelles qui étaient derrière moi. Donc c'est un petit peu difficile une photo de rendre une photo vraie. Alors ça montre la réalité. Si mon but avec une photo c'était de montrer, je vous montre la réalité de Cannes, c'est que les poubelles sont juste à côté de la plage. En soi n'est pas forcément choquant, mais qui est une information. Là oui, la 360 aurait été pertinente. Mais si je voulais vous faire rêver, balade-toi à Cannes comme les plus grandes stars. Beaucoup d'entre vous verraient la poubelle quoi. Elle sera obligée d'attendre le lendemain pour voir Naotech Live. J'imagine le PC bloqué sur un live. Ah, j'ai pas suivi votre conversation d'avant. Donc, la VR a un avenir, mais à mon avis, pour des utilisations beaucoup plus restreintes que c'était un peu prévu au départ, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Zuber. La 360 n'est pas un outil inutile, mais ce n'est qu'un outil. Ça ne va pas remplacer. On ne va pas aller au cinéma regarder des films en 360. Ça serait très fatigant, en fait. 17 000 euros la caméra 360 pour filmer des poubelles à Cannes. Ça fait cher l'ordure, hein, quand même. C'est une ville normale, il y a des poubelles. Oui, non, mais c'est vrai, Nonson. Mais ce que j'avais illustré, c'est juste que, justement, tu peux pas faire des photos esthétisantes avec une caméra 360 sans un énorme travail sur ton environnement. Voilà. Tu fais une 360 du Grand Canyon, on va voir les touristes derrière toi, quoi. On va pas voir que la vue devant. Sur Instagram, il y a du contenu VR de qualité vraiment bien réfléchi et créatif. J'avoue que je regarde pas trop, en fait. Je regarde pas trop. Bref, c'est la fin de Google Jump et pas de Google Jumeau, hein, dont personne... Il y en a plein qui ont cherché. C'est quoi, déjà, Google Jumeau? Un truc où on voit double? N'importe quoi. Et on termine par un article que j'ai trouvé assez intéressant, puisque ça débunk, en tout cas ça dégonfle un buzz que vous avez peut-être lu. On a vu une tonne d'articles cette semaine, ou la semaine précédente, disant « Les Chinois ont une sonnerie de téléphone humiliante pour ceux qui sont endettés ». Donc l'histoire vous racontait qu'une personne endettée en Chine, eh ben son téléphone sonnait et du coup c'était une humiliation publique, une dénonciation publique du fait que c'était un mauvais payeur. Eh bien ça montre encore une fois que la presse a vite fait de s'emparer d'histoire pour faire du clic, pour faire de la vue, pour faire de la sensation, pour faire du retweet, mais que c'est pas forcément la vérité, puisqu'effectivement C'est pas exactement ce qui se passe. En fait, la sonnerie ne sonne pas à l'extérieur du téléphone. Dans la rue, vous n'avez pas une sonnerie qui dit « Oh, mauvais payeur, honte à toi !» Non, c'est si vous êtes une personne et que vous appelez une personne qui est sur ce fichier, vous avez un message, bon, qui est violent quand même, mais c'est entre vous et lui. Le message vous dit « Bonjour, la personne que vous avez appelée fait partie de la liste des personnes qui ne sont pas dignes de confiance de la part du tribunal du peuple du district de Changxi, agglomération de Changsha. » Je lis très mal le chinois. En fait, le vrai... Alors ça, c'était une des versions du texte, mais le vrai texte, il y a débat, c'est « Le propriétaire de la ligne a été inclus dans la liste des personnes indignes de confiance de la part du tribunal populaire du district de... » C'est Tangxin, ouais, je sais pas prononcer. Tangxin, dans le Changsha. Faut vraiment que je revoie mon chinois. Veuillez faire preuve de prudence. En fait, c'est, alors, je dis pas que c'est pas grave, hein, on peut s'offusquer de ça, mais c'est déjà pas la même chose que d'avoir une espèce de sonnerie qui se déclenche dans votre poche, qui disent mauvais payeur en public. Là, c'est si une personne vous contacte et que vous êtes un mauvais payeur, il est mis au courant par un message, en fait. Alors, en fait, ces mauvais payeurs figurent sur une liste noire transmise aux opérateurs après une décision de justice. Seul moyen de sortir de cette situation, rembourser ses dettes. Une fois que vous avez remboursé vos dettes, vous êtes exclu. Là où la presse a en plus carrément exagéré les choses, c'est que, si vous avez lu les articles, c'était vraiment une nouveauté. Voilà ce que les Chinois sont en train de faire. C'est Big Brother. C'est... c'est quoi déjà la série Black Mirror. C'est Black Mirror et tout. Ça arrive en 2019. C'est une catastrophe et tout ça. Eh ben non, c'est faux, puisque ça existe depuis 2017 en Chine. Donc, c'est pas nouveau. Et que la première fois, la dépêche a été publiée en juillet 2017. Et la mesure concernait 10 personnes. La dépêche de Xinhua, agence de presse publique. Donc voilà, ça montre, encore une fois, là on revient même pas, bien sûr, moi je trouve c'est choquant qu'un mauvais payeur soit comme ça sur une liste, que ça soit déclaré, mais déjà on a deux histoires différentes qui dure depuis pas mal d'années, sur manifestement une proportion de mauvais payeurs qui est pas gigantesque, mais pour faire du clic, pour faire du buzz, une bonne histoire chinoise aujourd'hui, ça crée du clic, il faut le savoir, voilà. Les Chinois ne sont plus libres. Ce qui est pénible, c'est que à faire des histoires sensationnalistes. Pour que les gens s'indignent, alors qu'on pourrait déjà s'indigner sur ce qui se passe vraiment en Chine. Non, je dis pas que ça va, c'est pas ça, attention Robin, ce que je dénonce, c'est plutôt comment notre presse, ou nos blogs, ou nos youtubeurs, s'emparent des nouvelles, les traficotent pour les rendre bankable, pour que les gens puissent s'offusquer bien et retweet bien le truc, et c'est une déformation de la vérité du terrain, qui elle-même est choquante et scandaleuse en elle-même, mais pas assez pour que ça fasse du buzz. Alors, pour une bonne histoire chinoise, il faut de la misère humaine, un état surpuissant, et Huawei, c'est bon. Il faut surtout, la bonne histoire chinoise en ce moment, c'est, il faut de la vidéocaméra, de la reconnaissance faciale, et du châtiment public avec un score. Donc, ça marche très bien. Hein. Oui, mais c'est le cas depuis toujours avec les infos, surtout à la télé. Oui, mais Bruno, justement, on parle de nouveaux médias. Ce serait bien qu'on change nos habitudes. Hein, profitons d'avoir des nouveaux médias, peut-être. Et c'est pas parce que ça existe depuis longtemps que ça me choque pas. Quand le président chinois appelle la France, il a l'avertissement. Allô, Macron, ceci est un mauvais payeur, dénoncé par le tribunal du comté de Changsu pour ne pas avoir remboursé ses dettes. S'il vous plaît, exhortez la personne à remplir ses obligations légales. Ça, c'est les variantes du message. Ah oui, les ficelles sont anciennes. C'est pour ça que moi, je suis souvent mort de rire quand j'ai des jeunes youtubeurs qui me disent « Waouh, c'est dingue comme ça marche quand tu fais un truc comme ça et que tu humilies une personne. En fait, ça fait vachement de vues. » Et ils ont l'impression d'avoir inventé la poudre. Non, mec, ça existe depuis longtemps, hein. Les youtubeurs découvrent qu'en faisant du contenu nauséeux, du trash, quoi, bah on génère plein de vues. C'est fascinant. Mais ça existe depuis longtemps, hein. C'est aussi à cause des médias que je regarde Netflix parce que chez eux, il n'y en a pas lol, comme les pubs. Eh ouais, mais tu payes. Si Trump appelle la Chine, c'est quoi le message ? Le truc, je rebondis sur ce que je suis en train de dire parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est prêt à payer pour Netflix, pour avoir notre contenu, nos films, nos trucs, mais on n'est pas prêt à payer pour avoir de l'info. En tout cas, on n'est plus prêt à payer, et c'est les faits, hein. Je sais que certains vont me dire, moi je paye, mais dans les faits, la grande majorité des gens ne payent pas pour l'info. Donc l'info doit être subventionnée finalement par la publicité. Alors la publicité a des exigences de trafic, et ces exigences de trafic font que on génère ce type de titre. C'était un peu la même chose autrefois avec les abonnements. Pour que les gens s'abonnent, il fallait faire du sensationnalisme aussi, mais un peu moins quand même. Je pense que le jour où on sera prêt à vraiment payer pour notre info et qu'on justement et on dira je ne veux pas de ce contenu, ce trash, ça c'est bon pour le contenu gratos. Moi je veux le contenu payant où tu nous fais pas des vidéos toutes nulles ou des articles tout pourris qui génèrent du clic. Tu me fais des vrais articles de fond et des vrais trucs et je suis prêt à payer pour. Là, oui, il y aura l'émergence d'une presse et d'une qualité haute, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Le nombre de gens prêts à payer pour de la qualité, en termes d'infos, de news, de tests, etc., c'est presque zéro. Ça ne veut pas dire zéro, mais c'est presque zéro. Beaucoup de... En fait, on le voit bien hein, dans le crowdfunding, beaucoup ont l'intention de payer, mais peu le font, en fait. Beaucoup de gens sont prêts à payer pour la qualité de Mediapart ou le Canard Enchaîné. Pas tant que ça, hein, Guillaume. Hein. Leurs chiffres sont pas énormes, hein. C'est bien, ils ont réussi à survivre, ils s'en sortent, mais ça n'a rien à voir avec les chiffres d'affaires qu'on faisait à l'époque où les médias étaient payants. C'est pour ça que je regarde tes lives, ils sont gratuits. Que tu crois ? En fait, je vends votre fichier. Hein ? Je me fais de l'argent avec les métadonnées. Tout ce que vous dites dans la chatroom, dans la chatroom se retournera contre vous. C'est honnêtement hein, quand vous regardez les contenus qui vivent grâce aux abonnements aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et le crowdfunding. Tu vois, on parlait avec Patrick, quand on sait qu'il y a des... C'est juste un état de fait. Hein. Des gens comme Tom Merritt, Et là, moi, j'étais sur le cul. Tom Merritt, vous connaissez peut-être. C'est un YouTuber, présentateur, chroniqueur tech américain qui, lui, a un business model entièrement basé sur le crowdfunding et 20% de son audience donne. Patrick, qui a un score énorme, il y a 2% de son audience qui donne. Et moi, mon crowdfunding, on est à 0,3%. Si on prend l'audience globale de YouTube et qu'on regarde le nombre de contributeurs, on est à même moins de 0,3%. 20%. Honnêtement, j'aurais 20% des gens qui regardent des vidéos sur YouTube qui contribueraient. Alors, je peux vous dire que il y aurait pas de vidéo sponsor, il y aurait pas de pub, il y aurait pas d'opération, il y aurait, enfin voilà, j'achèterais tous les produits que je teste, il y aurait plus de problème. Hein. Non, alors je suis pas là pour vous dire faut le faire, mais comprenez bien comment les choses marchent en fait. Mais c'est vrai que, aux États-Unis, ils ont la culture du tip. Eux, ils payent des pourboires, ils les calculent, et ils comprennent que quand quelqu'un fait quelque chose qui vous divertit, qui vous informe, c'est du boulot et que ça se paye, quoi. C'est juste un changement culturel. Enfin, c'est une différence culturelle. Mais c'est sûr que le crowdfunding marche bien mieux aux États-Unis que dans les pays européens, quoi. Merci en tout cas à ceux qui sont contributeurs. Attention, hein, j'ai pas fait tout ce speech pour vous culpabiliser ou machin. C'est juste, je vous explique un état de fait, en fait. Pas de questions Platinium, on va passer effectivement, c'est la fin de ce Techscope, on va rester 5 minutes ensemble si vous avez des questions effectivement à me poser ce matin. Je vous rappelle que demain matin, ça sera Marion qui vous présentera le Techscope. Moi, je serai là jeudi matin, oui, même si c'est férié, puisque moi, je prends mon jour férié plutôt le vendredi. Par contre, il n'y aura pas de Techscope vendredi, à noter dans vos tablettes. Et donc, les pauvres n'ont pas droit à la qualité. Yves Castel, c'est toujours l'argument qu'on va mettre en face. Je pense qu'on peut pas raisonner comme ça. D'abord, est-ce que tous ceux qui profitent du contenu gratuit sont des pauvres? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, si les contenus étaient qu'il y avait plus de contributeurs, ça permettrait probablement aux médias d'offrir de la qualité gratuitement plus facilement aussi. Donc le truc de dire avec des raisonnements comme ça, il y a que les riches qui auront du contenu de qualité, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand même triste, aujourd'hui, pour éviter d'avoir de la merde, il faut payer. J'ai presque envie de dire que ça a toujours été le cas, hein. Half-Life. Sauf qu'autrefois, on était beaucoup moins choqués par le fait de payer. Quand j'entends des gens aujourd'hui qui me disent « on a plein d'abonnements, c'est l'horreur et tout », et je leur dis « mais t'as connu l'époque où on achetait des magazines, où on achetait des journaux, combien tu dépensais par mois ?» Si on prend les divertissements dans leur ensemble, combien tu claquais en CD, DVD, journaux, magazines, etc. Et à l'époque, on entendait peu de personnes dire « Oh là là, je dois payer chaque journal, ça fait cher hein, la fin du mois. » Alors, que penses-tu du trépied Peak Design? Écoute, j'ai même pas regardé, c'est forcément bien. Non, sans rien, je pense... Alors, je suis pas d'accord avec certains youtubeurs américains, mais bon, ça m'étonne pas de Paulins, qui disent il est très cher. C'est faux. Alors, tout dépend dans quelle gamme tu le compares. Lui, justement, il dit c'est pas un trépied pro, donc on peut pas le comparer au prix des trépieds pro. On verra au moment du test. Moi, je pense que c'est un trépied pro, et pour un trépied pro, il a plutôt un bon prix. Pour du carbone, etc. C'est sûr qu'après, si tu le compares à d'autres trépieds carbone qu'il y a sur Amazon, d'autres marques moins connues, en tout cas chez les pros et pas super pros, il peut paraître cher. Mais pour avoir eu un trépied carbone qu'on vous avait testé hein, d'ailleurs sur la chaîne, qui a fait un rapport qualité-prix qui était dingue, bah, un an après, il y a un des pieds qui m'est resté dans la main, il y a un ressort, il est parti dans un buisson. Voilà. Tu payes pour ce que t'as, hein, aussi. Tu vas acheter le trépied Peak Design, c'est déjà fait, hein, le jour où ils ont annoncé. Je vous ai mis un... Il y a un lien d'affiliation, d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, hein, pour la chaîne. Payer de l'immatériel, c'est compliqué. Mais en quoi c'est immatériel à partir du moment où tu... Ouais, toi, tu dis, tant que j'ai pas le papier en main, physiquement, je paye pas. Je pense qu'on peut pas s'arrêter à ça, quoi. Et Jérôme, est-ce que tu vas travailler avec le Focus? C'est quoi le Focus Peak Design? Le focus. Ah, est-ce que tu travailles avec le Focus Peaking? Ah bah oui, Focus Peaking à donf, hein. Pas les moyens d'avoir des Amiga à tarif. Ça va rester le bon vieux temps. Ouais. Mais par contre, j'ai pas compris, si tu participes avant, tu le payes moins cher. Bah oui, c'est le principe du crowdfunding. Tu l'as à un meilleur prix si tu le kickstart, enfin si tu le bake en fait. Je bloque 50 euros pour l'info et du Tipeee. Quel était le problème de la France? Trop habitué, gratuit, piètre qualité. Mais tu as le bon raisonnement, Alexis. À partir du moment où on a découvert que tout pouvait être gratuit sur Internet, ça a changé le rapport des consommateurs. Mais en fait, le grand mensonge, c'est que ça n'a jamais été gratuit. Simplement, tu payes avec ton data, quoi. Et maintenant, on s'offusque de payer avec notre data. C'est là où on veut un peu le beurre et l'argent du beurre, quand même. En vrai, le mieux, c'est de fabriquer son trépied. Bah écoute, Edmondson, si tu arrives à fabriquer un trépied en carbone de voyage... Tant mieux pour toi, mais moi j'y arriverai pas. Après, oui, un trépied en PVC, tu peux le faire. Hein. Mais aujourd'hui, vu le prix de certains trépieds entrée de gamme à 30 euros sur Amazon, tu vas payer plus cher tes tuyaux en PVC pour le fabriquer. Ouais, le trépied Zomeil, je ne le recommande plus. D'ailleurs, je me demande si on va pas enlever la vidéo. Ça serait peut-être bien. Parce qu'en fait, il nous a pété dans les doigts hyper rapidement. Il y a Vaya qui demande si quelqu'un connaît des bons supports pour smartphone, pour voiture, de lui transmettre l'info. Un GH4 pour commencer les vidéos conventionnelles. Alors, il faut savoir quand même manier une caméra pour manier quand même correctement le GH4. Ou te payer une petite formation sur YouTube ou chez Caleb Pai qui est une formation payante mais qui vaut vraiment carrément le coup. Elle est pas compliquée à utiliser, mais faut savoir ce qu'on fait quand même avec un GH4. Pas une caméra pour débutants absolu. Non, j'en ai pris qu'un trépied. Le matériel et la différence entre le magazine et le site web. Ouais, mais moi personnellement, par exemple, mais je représente peut-être. Moi, je préfère l'immatériel au matériel. Les piles de magazines qui prenaient la poussière chez moi, les cassettes vidéo jusqu'au plafond et tout ça, je suis très content d'avoir tout dématérialisé. Et de pouvoir revenir sur des articles que j'ai lus il y a 3-4 ans sans devoir avoir une pile dans les chiottes de magazines, quoi. Donc, au contraire, moi, je trouve que la valeur ajoutée de l'immatériel, elle est très intéressante. Mais c'est peut-être que moi, hein. Il est 9h08, oui, on va peut-être... allez, encore une minute et j'arrête. Florian, ça c'est des questions, je pense, Texcope n'est pas gala, voilà. Je pense pas que ça vous intéresse vraiment notre histoire avec Marion. C'est de la vie privée en plus, donc voilà, je répondrai pas, faut pas le prendre mal, mais ça vous regarde pas. Sans les pages collées. Moi, ça fait un an que j'utilise un G7. Il y a un mois, tu es passé au GH5. Bon, bah écoute, j'espère que t'en es content. Oui, je l'avais peut-être déjà raconté en plus, Yves. Mais il t'est arrivé quoi avec ce trépied Zomeil ? Un des pieds m'est resté dans les mains. Le ressort a sauté dans un buisson. Il est pété, impossible à réparer. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu t'aperçois quand même que leur mécanisme, c'est pas de la mécanique de précision allemande, hein. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce Techscope. Vous retrouverez Marion demain pour le Techscope du mercredi. Et moi, je vous retrouve jeudi. Je le redis, je serai là jeudi matin. On sera pas là, par contre, vendredi matin. Mais jeudi matin, je sais que c'est férié pour certains d'entre vous. Peut-être que certains, ça leur donnera l'occasion de regarder l'émission en live. Et les autres, dormez, ce n'est qu'un Techscope. Vous avez le droit de rater un Techscope. Un seul. Hein. Vous avez le droit de le rater. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.